BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal qui s'intéresse donc ce soir au secteur de l'immobilier, alors que le ministère du Logement a publié ce matin des chiffres qui montrent que la construction de logements neufs continue de se rétracter en France au deuxième trimestre, un repli qui atteint 7,4%. Il y a tout de même des chiffres positifs, en tout cas des signaux positifs, le nombre de permis de construire qui est repassé dans le vert, et c'est une première depuis 9 mois. On en parle donc ce soir avec notre invité Nordine Hachemi, le PDG de Kaufmann & Broad. Publication donc ce matin, faite par le ministère, est-ce que vous avez vous aussi le même sentiment? C'est-à-dire que pour le moment, ça reste vraiment en demi-teinte, mais ce qui permet d'avoir une petite lueur d'espoir, ce sont les permis de construire, pas sur un an, hein, vraiment sur 9 mois.
Alors, il y a plusieurs choses. Les permis de construire qui sont en augmentation aujourd'hui, c'est le résultat, toujours ça, c'est relatif par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y a eu une très grosse chute d'attribution de permis de construire parce que les collectivités locales étaient occupées par les élections municipales.
Mmh. Donc, mécaniquement, les maires ne font plus rien, ils arrêtent tout.
Les équipes se mettent en place, c'est ce qu'on avait prévu, d'ailleurs, anticipé. Les élections ont lieu au printemps, les équipes se mettent en place, elles deviennent opérationnelles à la rentrée parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de changements de municipalités. Mmh. Et là, maintenant, elles sont mises à traiter des dossiers et mécaniquement, on voit la hausse des permis de construire.
Donc sur un an, plus 3,9%. En termes de permis de construire,
c'est
ça
bien,
vous paraît quoi?
C'est bien, mais c'est complètement attendu. C'est la baisse. Ce qui n'est pas normal, c'est la baisse de 2014.
Donc en gros, vous nous dites...
On redevient à la normale.
Ce chiffre, n'en tenons pas compte. On va attendre de voir ce qui se passera au prochain trimestre, au prochain semestre.
Non, les vrais chiffres qui sont intéressants, il y a des raisons d'être optimiste. C'est pas tellement sur les permis de construire. Encore une fois, c'est mécanique. C'est sûr que si on fait rien pendant 6 mois...
Et à un moment, faudra faire
à un moment donné, ça devient l'année d'après, ça devient positif. Non, ce qui est positif, c'est plutôt l'évolution des ventes que l'on constate, qu'on a constaté chez Kaufmann & Broad, mais aussi chez les principaux acteurs du marché, où là, on a vu un retour des investisseurs. Là, c'est un véritable indicateur de marché.
Des investisseurs, oui. Des primo-accédants, ou ça reste encore compliqué pour eux?
Alors, on a... En fait, sur l'ensemble des catégories, on a des informations intéressantes sur ce qui s'est passé sur 6 mois. D'abord, les investisseurs particuliers qui, eux, sont revenus de manière très significative. On voit une augmentation aussi des investisseurs institutionnels privés. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça a eu existé dans le passé, ils étaient sortis du marché, et on voit un retour de ces investisseurs institutionnels privés. Je ne parle pas des bailleurs sociaux. Par contre, on a toujours les primo-accédants qui sont à la traîne, qui sont encore en baisse cette année, et on pourra parler vraiment de reprise solide, durable, que lorsqu'on aura également les primo-accédants qui seront sur le marché. Aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Qu'est-ce qui fait justement qu'ils ne sont pas encore là? Parce qu'a priori, les taux sont bas, les prix ont... sensiblement baissé, même si certains, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être votre avis, certains estiment que les prix restent encore supérieurs, en tout cas au-delà de ce qu'ils devraient être, de à peu près 5%, vous êtes d'accord?
Alors, ça dépend de quoi on parle. Là, on parle de l'ensemble du marché, c'est-à-dire neuf plus ancien. Il se trouve que dans le marché neuf, on crée un produit en fonction du pouvoir d'achat de nos clients. Donc, et ces produits, on les crée en permanence. C'est les fameux permis de construire qu'on est en train de déposer, qu'on obtient, etc. Donc, on est toujours calé en prix avec les attentes de nos clients. Par contre, sur l'ancien, où là, c'est un stock de logements qui va se vendre ou ne pas se vendre, mmh, si le prix n'est pas ajusté, effectivement, il y a encore des réajustements de prix dans certaines métropoles, mais on s'aperçoit que on n'attend plus des grosses variations. Maintenant, sur les primo-accédants, ce qui fait qu'ils seront au rendez-vous sur le marché, c'est plusieurs paramètres, et en particulier... leur confiance dans l'économie, leur confiance dans l'avenir. Il faut qu'ils considèrent que de prendre un engagement à long terme n'est pas risqué en fonction de leur capacité à perdre ou non leur emploi. Donc tant qu'on aura un environnement macroéconomique difficile, ça va être compliqué de les avoir de manière significative sur le marché. Puis en plus, il y a eu des maladresses réglementaires malgré tout, quand bien même il y a eu beaucoup de choses positives depuis septembre 2014, où on a baissé notamment le PTZ dans les zones tendues, et en Île-de-France en particulier, ce qui est assez difficile à comprendre, puisque le PTZ, vous savez, c'est le prêt à taux zéro qui vient accompagner les primo-accédants dans leur rapport personnel pour pouvoir faire des acquisitions, et il a augmenté dans les zones les moins tendues, et il a baissé dans les zones tendues.
Ça paraît pas spécialement logique.
Non, alors je pense qu'il y a une logique d'aménagement du territoire, si on tire les choses un peu... au fond du fond, pour essayer de trouver des justifications, mais enfin bon, là, il y a eu juste une aberration. Mais on va pas dire que c'est ce qui justifie l'absence des primo-accédants, malgré tout, sur le marché.
Vous redoutez la hausse des taux?
La hausse des taux,
elle arriverait trop tôt, là?
Plus tard elle arrivera, mieux ce sera, clairement. Ce qui est important, c'est pas tant qu'elle vienne, parce que ça arrivera un jour, c'est que ça vienne progressivement. Comme je le disais, on construit nos produits, on les fabrique en fonction des contraintes macroéconomiques. Donc on a quand même un certain nombre de variables sur lesquelles jouer pour maintenir un prix qui soit compatible avec le pouvoir d'achat de nos clients. Un prix du foncier, les choix des emplacements, les coûts de construction qu'on arrive encore à maîtriser. Une hausse brutale des taux, on n'a pas le temps d'ajuster les programmes en fonction de cette nouvelle donne. Ça, c'est pas bon, puis ça fait peur, ça déstabilise. Si on a une hausse progressive des taux, ça, c'est tout à fait absorbable par le marché et par la profession.
Je disais tout à l'heure un certain nombre d'expertises, et il y en a une qui m'a surpris, dans laquelle on pouvait lire que la construction faisait peur, c'est-à-dire que les maires étaient parfois réticents, il y avait une mauvaise image de la construction. Vous êtes d'accord ?
Alors, pour certains maires, c'est la population qui peut être toujours un peu stressée par l'arrivée de nouveaux habitants, par les travaux, par... vous savez, on n'aime pas trop le changement de manière générale, donc il va avoir un nouveau bâtiment, il va avoir un nouveau quartier. Donc il y a toujours une certaine crainte. Les maires sont là pour accompagner leur population et dans des cas exceptionnels, ils vont éviter des nouveaux travaux. Mais on le voit que, quand bien même ça a été à un moment donné une sorte de thème de campagne dans les zones tendues, de dire l'année dernière en campagne municipale, il n'y aura pas de nouveaux permis, il n'y aura pas de nouvelles constructions. En réalité, tout le monde est très raisonnable. On sait qu'il y a un besoin de nouveaux logements et on le voit dans les permis de construire qui sont en train d'augmenter à nouveau. Ça veut dire que les maires ont accepté de distribuer et d'accorder des permis de construire. Et donc, tout ça, ça se gère. Par contre, il faut accompagner les projets. On ne fait pas des projets n'importe comment. Et ce qui est clair, c'est qu'on fait toujours les projets avec les élus et jamais contre les élus.
Alors, vous disiez, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui allaient plutôt dans le bon sens. J'imagine que vous évoquez le dispositif fiscal Pinel, la loi Pinel en l'occurrence. En revanche, ça reste toujours aussi compliqué de construire. Le dispositif, le cycle de fabrication est toujours aussi complexe.
Alors, c'est toujours très long. Trop long, complexe, toujours autant de règlements. On en parle depuis 2 ans, il n'y a pas eu de modification significative sur l'allègement des règlements. On a peut-être même eu des supplémentaires, d'ailleurs, si on analyse dans le détail. Donc ça, c'est toujours très lourd. C'est un mal français. Il faut qu'on arrive à vivre avec parce que...
Vous baissez les bras. Vous n'avez aucun espoir de le simplifier.
Écoutez, il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté politique affirmée, continue, décider. On le voit bien, la quantité de lois que l'on produit tout le temps. On a complexifié, quand je vous disais, tiens, on a dû complexifier, mais si, on a complexifié dans la loi de protection du consommateur, par exemple. Il y a eu, la France devait transposer une directive européenne qui ne s'appliquait qu'aux biens de consommation. Pour une raison qu'on ignore complètement, on a décidé de l'étendre à l'immobilier. Oui. Donc, alors que c'est pas du tout, on vend pas un logement comme on va vendre un aspirateur. Donc pourquoi on est parti dans cette voie alors maintenant on est en train d'essayer de corriger, je baisse pas les bras, mais il faudrait quand même une sacrée révolution culturelle pour qu'on décide une fois pour toutes de remettre en question ces règlements qui se superposent. En attendant, on arrive malgré tout à faire notre travail et on l'arrive souvent d'ailleurs aidé par les élus qui ont la volonté de développer ces projets.
Alors vous arrivez effectivement à le faire même plutôt bien, parce qu'au premier semestre, votre chiffre d'affaires est en progression de 9%, résultat net plus 7% à 12 millions d'euros. C'était une bonne surprise.
On l'attendait. Alors là, on est sur 6 mois. Ce qu'on avait anticipé, c'est une stabilisation du chiffre d'affaires et du résultat sur 2015.
Alors qui peut être au-delà de la stabilisation là quand même.
Oui, mais alors il se trouve que c'est un peu compliqué à expliquer, mais très rapidement, on a deux activités. On a le logement qui lui est en croissance et sera en croissance en activité, en performance sur l'année. Mais on a aussi l'immobilier entreprise qui est un axe de développement important pour Kaufmann. Et l'immobilier entreprise, c'est un peu en tout ou rien. C'est des projets de taille significative qu'on rentre. Par exemple, l'année dernière, on a vendu le siège d'une entreprise qu'on va réaliser qui fait 23 000 m² à Paris. Ça, on a enregistré plus de 100 millions d'euros d'activité à la signature du contrat. Eh bien, ça fait un à-coup. cet à-coup, on l'a pas nécessairement dans les 12 mois qui suivent. C'est pour ça qu'on parle de stabilisation sur l'ensemble du périmètre, quand bien même on a une croissance forte sur l'activité logement.
Ah, et c'est un axe important pour vous. Vous communiquez beaucoup, mine de rien, dessus. Là, dans ce que vous m'avez envoyé quand vous avez appris qu'on allait faire une interview ensemble, il y a, je sais plus, 3-4 dossiers de presse juste sur l'immobilier d'entreprise avec effectivement des superficies qui peuvent paraître importantes. C'est un levier de croissance possible.
C'est un levier important. Pourquoi on insiste dessus? On est très connu et c'est toujours le cœur de notre activité sur le logement. On a une image forte, on a des produits de qualité qui sont appréciés par nos clients. On était moins attendu sur les projets en immobilier entreprise. On était moins connu il y a quelques années encore sur ce terrain-là. Et puis on était moins connu également comme un généraliste de la promotion, c'est-à-dire capable de mener des projets d'ensemble. C'est certainement une des raisons pour lesquelles vous avez reçu autant d'informations, parce qu'on souhaite affirmer à nouveau notre volonté d'être des généralistes de la promotion et vraiment des apporteurs de solutions. On veut passer du stade de la fabrication d'un bâtiment au stade de l'accompagnement des collectivités sur la fabrication d'un quartier.
C'est un autre métier ?
C'est un métier qui s'appuie sur les fondamentaux du groupe, mais qui demande des compétences nouvelles qui sont chez nous depuis maintenant 2 ans.
Alors, évidemment, quand on parle logement, quand on parle aujourd'hui logement, on parle évidemment, en filigrane en tout cas, de l'encadrement des loyers. C'est un peu le sujet à la mode et pour cause, ça entre en vigueur samedi. Alors, à Paris, en l'occurrence, hein, ça devrait concerner à peu près un locataire sur 5. Les bailleurs et les propriétaires sont vent debout contre cette mesure. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que c'est une mesure qui va handicaper clairement le secteur?
Je les comprends parce que d'abord, elle est stupide, cette loi. Elle est totalement dogmatique et elle n'aura pas d'effet, à mon sens, très significatif sur les loyers, puisque les loyers eux-mêmes sont en phase de stabilisation. Alors, certains disent...
On dit qu'on peut gagner entre 50 et 200 euros. C'est pas négligeable.
Oui, mais hors qui? J'en entends certains. Moi, je serais pas capable d'être précis là-dessus. Je connais pas le marché de l'ancien, mais... qui disent que ça va profiter aux toutes petites surfaces, aux micro-studios, et que ça va profiter aux très grands appartements avec des très gros loyers. Bon, si c'est vrai, on peut se demander quel était l'objectif, mais ce qui est sûr, c'est que ça envoie un mauvais signal. Et dans la loi Pinel, il y a un sujet qui est très intéressant, qu'on est en train d'étudier et puis qu'on va approfondir dans l'année. C'est un des sujets, on avait dit, c'est intéressant de laisser les investisseurs... choisir de louer ou pas à leur ascendant ou descendant. Mmh. C'était une demande forte de la part de l'ensemble de la promotion, de la profession. Et j'allais dire, je fais le parallèle avec l'encadrement des loyers, vous allez voir pourquoi. Nous, ce qu'on constate, c'est quand on demande à nos clients investisseurs, est-ce que cette possibilité vous a incité à acheter un logement? Ils sont, en gros, on explique 30% de la croissance de nouveaux acquéreurs qui disent oui, cette flexibilité nous a incité à acheter. Et quand on leur demande est-ce que vous avez l'intention de louer à un ascendant, à descendant, ils sont que 10% à nous dire oui, c'est notre intention. Donc on voit que le signal positif, c'est-à-dire on donne cette possibilité, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, mais ça rassure et ça donne envie d'acheter. Ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on dit... même si c'est pas efficace, je vais encadrer les loyers, ben on prend le risque de faire sortir les gens. Quand bien même, l'encadrement des loyers n'aurait peu ou pas d'impact sur leur investissement.
Il y a des études qui ont été faites là-dessus, on sait combien de personnes ne franchiront finalement pas le pas, n'achèteront pas parce qu'il y a cet encadrement des loyers potentiel qui peut du coup être généralisé. Hein.
Ce qu'on peut mesurer, mais il faudrait, pour pouvoir le mesurer de manière efficace, et ça c'est un sujet aussi intéressant, c'est qu'il faudrait stabiliser les mesures. C'est-à-dire, il ne faudrait pas tout changer tout en même temps. Donc ce qu'on a bien vu, c'est qu'il y a eu une grosse chute des investisseurs, mais qui était liée à un discours d'ensemble. Quelque part, on a la mesure. Excusez-moi, je réfléchis tout haut, mais le dispositif Pinel, d'un point de vue économique, il est quasi équivalent au dispositif Duflot. Mmh. C'est les mêmes loyers, c'est les mêmes taux de défiscalisation, à part qu'on a rajouté de la souplesse sur la durée d'engagement. Et puis, on a rajouté de la souplesse sur à qui on peut louer. On voit bien... immédiatement, c'est dans notre cas plus de 40% ou plus de 50% sur 6 mois d'investisseurs complémentaires par rapport à 2014. Donc on voit bien la dimension psychologique que ça peut représenter d'avoir des annonces qui ne sont pas utilisées nécessairement par les acquéreurs, par les agents économiques, mais le fait de te sentir libre, eh bien, donne l'envie de prendre des décisions d'investisseurs.
Je vous ai pas demandé, vous restez quand même confiant là, sur l'ensemble de l'année par rapport à Kaufmann & Broad sur 2015. Vous serez dans le vert à la fin de l'année?
Oui, oui, bon, on était, alors nous, il se trouve qu'on a fait une bonne année 2014, puisque nous-mêmes en 2014, là où le marché était à moins 6% en vente, nous on avait fait plus 14%. Donc notre challenge, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire, du reste, de continuer à faire encore plus.
À deux chiffres, c'est possible en 2015
en nombre de réservations, on est assez ambitieux en nombre de réservations. On n'a pas communiqué officiellement sur ces objectifs, mais on pense qu'on va continuer d'être sur une bonne dynamique en réservation.
Et si vous deviez communiquer, vous diriez quoi ?
Ah ben on le fera pas, on dira rien parce que on communique pas sur ces chiffres. Peut-être que plus tard on donnera si on est dans un environnement qui est à peu près fiscalement stabilisé, on sera capable de prévoir des prévisions plus précises.
Qu'est-ce que c'est que Urbismart ?
Alors Urbismart, c'est un start-up qui est dans la gestion de la logistique du dernier kilomètre. Vous savez, c'est le grand sujet. On est à Paris, on voit tout, enfin dans toutes les grandes villes, hein, tous ces camions qui font la queue pour distribuer, qui vont circuler dans la même rue. Quand on est derrière, on pèse assez. Les pauvres livreurs, il faut bien qu'ils livrent les magasins. Tout ça, c'est un petit peu désordonné. Et c'est un start-up qui a développé un modèle avec une université allemande, une équipe française, un modèle de gestion de ce fameux dernier kilomètre qui fédère les transporteurs et qui se propose d'optimiser la distribution et les livraisons en fonction de la demande des différents commerçants.
Mais pourquoi une entreprise comme Kaufmann & Broad s'associe à Urbismart, en tout cas décide de les accompagner dans leur développement ?
Alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est pour des raisons internes, j'allais dire, ça fait partie, c'est l'équipe qui est au cœur de ce projet sont des collaborateurs de Kaufmann. Qui font partie de l'équipe de développement en logistique, qui est une activité en pleine croissance chez Kaufmann. Et ils ont, du fait de leur expérience dans le métier, développé cette activité, ce start-up. Et je trouvais intéressant qu'une entreprise telle que la nôtre, beaucoup plus traditionnelle, accompagne des initiatives innovantes. Ensuite de ça, c'est un secteur qui nous est pas éloigné, puisque comme je vous le disais, on attend de plus en plus de nous, les élus, les collectivités locales attendent de plus en plus de nous qu'on les accompagne au niveau des quartiers. Mmh. Elles veulent plus simplement d'un promoteur qui se contente de prendre un terrain, construire un immeuble et qui s'en va. Elles veulent qu'on soit porteur de solutions d'ensemble.
Et là aussi, c'est un nouveau métier pour vous.
Tout à fait. Et c'est pour ça que la logistique, la livraison, la manière de gérer le quartier en termes de magasins, en termes de circulation, c'est des points qui sont très importants pour les élus. Et si on veut continuer à faire notre métier, on se doit d'en offrir plus à nos clients et à nos partenaires que sont les collectivités.
Tout reste à faire aujourd'hui ou on connaît déjà les solutions ou tout reste à faire ?
Alors, il y a eu beaucoup de progrès. D'abord, au niveau des collectivités, on a de plus en plus de projets qui sont faits. Il y a les éco-quartiers, donc qui sont pris dans leur ensemble et plus simplement un patchwork de construction qui se fait au fil de l'eau. On a de plus en plus de secteurs comme ça qui sont faits dans les zones très urbanisées. Donc on a quand même une tendance de fond dans le domaine.
Merci beaucoup Nordine Hachemi d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, donc le PDG de Kaufmann & Broad. Merci encore.
Merci.
Vous restez avec nous, les infos arrivent, ce sera avec Aurélie Blonde dans quelques instants. Et puis juste après, on s'intéressera au secteur de l'automobile. Beaucoup d'actu autour de ce secteur et notamment donc Toyota qui n'est plus sur la première marche du podium. Toyota remplacé désormais par Volkswagen en termes de vente, en tout cas pour le premier semestre. On en parle dans quelques instants avec Bertrand Racoteau, c'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Et c'est donc la fin d'une époque, puisque Toyota n'est plus le premier constructeur mondial détrôné, donc chassé de cette première place par Volkswagen. Alors ça se joue à quasiment rien, puisque Toyota a écoulé 5,02 millions de véhicules sur le premier semestre, donc tandis que l'Allemand en a écoulé 5,04. Disait, ça ne joue à pas grand chose. Bertrand Racoteau, vous êtes consultant automobile chez Détroit Intelligence. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette information ? Je vous disais, ça ne joue à pas grand chose. Alors, est-ce que effectivement, c'est la fin d'une époque et on se dit, bon, ben voilà, ça y est, le constructeur allemand passe largement devant ? Ou alors, c'est conjoncturel, structurel, vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière tout ça.
Pour l'instant, les deux constructeurs sont coude à coude. Donc Volkswagen est passé devant, c'est une bonne nouvelle pour Volkswagen, puisque en fait, c'est un des objectifs du constructeur d'être de s'installer dans le siège du numéro 1 mondial.
Ils ont un peu d'avance d'ailleurs sur le plan qu'ils avaient.
Ils ont un peu d'avance, et puis il y a également, ils sont en même temps en pleine restructuration. Ferdinand Piëch est parti, on est en train d'apprendre que Volkswagen va être séparé en quatre holdings, donc il va y avoir aussi une restructuration des coûts. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a encore l'Amérique du Nord qui reste un pays difficile pour la marque Volkswagen, l'Amérique latine qui est en perte, mais à côté de ça, l'Europe bénéficie énormément à Volkswagen. Donc en fait, les deux constructeurs sont vraiment au coude à coude. Ça se joue à 20 000 unités sur un semestre, c'est rien du tout quand on a plus de 5 millions. Donc la fin de l'année va être intéressante.
Ça, est-ce qu'il faut en faire des caisses aujourd'hui en disant c'est la fin d'une époque?
Non, il faut attendre de voir, il faut noter que en fait c'est une belle performance, que on a un changement, mais avant de tirer des conclusions, il faut attendre de voir comment va se passer la seconde partie de l'année, comment vont évoluer les différents marchés, puisque Toyota baisse un peu à cause du Japon. Et puis, si l'Amérique du Nord continue sa progression, comment ça va se passer entre les deux constructeurs, puisque Toyota est un peu plus en avance que Volkswagen. Et puis, Toyota reprend un petit peu en Europe, même si Volkswagen reste malgré tout plus fort.
Est-ce que ce sont tout de même deux stratégies, de vision du monde, de vision de constructeurs qui s'opposent ?
Ce sont deux constructeurs très différents. Volkswagen a, en tout et pour tout, on va dire au niveau voiture, il y a trois marques, deux principales, enfin un peu plus de trois marques en fait, mais il y a deux marques principales, il y a Toyota et Lexus, et puis ensuite on a Scion aux États-Unis, on a des camions, on a différentes marques après, mais essentiellement on a Toyota et Lexus. Chez Volkswagen, on a 12 marques. 12 marques dont alors les principales vont être Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Porsche. Et puis après, on a Ducati, on va avoir des marques de camions, on va avoir des marques d'utilitaires. Donc, c'est pas du tout la même approche, pas du tout la même stratégie, pas du tout la même façon de faire non plus, puisque tout est centralisé en Allemagne pour Volkswagen. Et pour Toyota, il y a une approche qui est un petit peu plus proche des marchés, avec des développements qui sont faits dans les pays. Lexus a été développé aux États-Unis. Donc, c'était une décision japonaise, mais développé aux États-Unis. Or, aujourd'hui, tout est développé depuis l'Allemagne pour Volkswagen.
Ça peut être handicapant?
Ça a ses avantages, mais ça a ses handicaps, puisqu'aujourd'hui, on le voit, la Passat américaine est un modèle qui rencontre pas le succès escompté. La Volkswagen Golf, qui, durant les 27 dernières années, était 26 fois première, a perdu cette première place. Donc, il y a des choses à revoir. Et puis, au sein de Volkswagen, en fait, depuis le départ de Ferdinand Piëch, les langues se délient. Donc, on apprend petit à petit que la stratégie va évoluer, qu'il va y avoir des réorganisations. Donc, des choses qui vont évoluer beaucoup plus du côté de Volkswagen que du côté de Toyota.
Quand on a 12 marques, il y en a forcément certaines qui marchent mieux que d'autres. Est-ce qu'il y a, terme peut-être un peu fort, mais des canards boiteux du côté de chez Volkswagen?
Il y a des marques qui sont plus difficiles que d'autres. Seat est un bon exemple, puisque c'est une marque qui aujourd'hui vient de retrouver une nouvelle image. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre qu'on va abandonner ce côté un peu sportif à la méditerranéenne que Ferdinand Piëch voulait donner. En fait, Ferdinand Piëch voulait faire de Seat un concurrent d'Alfa Romeo. Là, on voit que c'est une marque qui va devenir plus familiale, donc qui va changer un peu son image, qui va changer un peu ses produits. Donc, il va y avoir une restructuration à ce niveau-là. Il faudrait aussi un changement culturel, parce que pendant très longtemps, Seat a été un incubateur de cadre pour le groupe Volkswagen. Donc, c'était pas quelque chose qui, d'un point de vue stabilité, apportait énormément.
Et des marques comme Skoda, par exemple?
Skoda, c'est une marque qui marche plutôt très bien, qui a un positionnement prix assez agressif et puis qui présente des modèles qui sont plutôt séduisants. Donc aujourd'hui, Skoda est une marque qui est plutôt très positive au sein du groupe.
On le disait, Volkswagen est en avance pour le moment sur son plan. Ça veut dire que les choses devraient continuer comme ça, l'écart devrait continuer de se creuser assez rapidement, mine de rien, parce que s'il décide de passer à la vitesse supérieure...
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que en fait, on passe premier parce qu'on fait des efforts, mais aussi parce que les autres baissent. Donc ça ne dépend pas que de soi. Volkswagen est en train de se restructurer, donc il va y avoir des choses positives qui vont arriver. Il va peut-être y avoir aussi une pause. Il faut attendre de voir comment le constructeur va se redéployer après la fondation des quatre holdings, après leur organisation des différentes marques, et comment Volkswagen va aborder les marchés, sachant qu'on le voit en Chine, il y a aujourd'hui un petit peu de difficultés. Alors, spécifiquement par rapport à Volkswagen, mais Audi ralentit un petit peu en Chine, même si la marque accélère en Amérique du Nord. Il y a des échanges qui se font au sein du groupe qui vont certainement soit améliorer, soit un petit peu reprendre d'un autre côté. Donc tout s'équilibre un petit peu et il faut essayer de battre cet équilibre pour essayer de progresser vers le haut. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident de dire aujourd'hui la progression va continuer et Volkswagen va rester premier. C'est ce qu'on leur souhaite. Toyota aujourd'hui n'a pas affiché une volonté de rester absolument premier. Ils veulent surtout avoir une stratégie basée sur leur marge et sur leurs coûts.
C'est leur discours. Je me suis demandé si c'était le discours d'un bon perdant ou si c'était une réalité.
C'est un discours, ça peut être un discours de bon perdant, mais c'est plutôt une réalité. Les Japonais sont assez... Il y a une grande fierté chez eux, mais également ils sont très pragmatiques. Et on voit depuis quelques années, Toyota essaye d'avoir des produits séduisants et puis aujourd'hui de protéger ses marges.
La Chine, vous l'évoquiez il y a un instant, on parle d'un ralentissement de l'économie. Est-ce que les deux constructeurs sont touchés au même niveau ? Si tant est qu'ils soient touchés.
Volkswagen sera forcément plus touché parce que Volkswagen pèse beaucoup plus lourd dans le marché chinois. Donc mécaniquement, ça va être plus compliqué pour Volkswagen s'il y a un ralentissement très fort du marché chinois. En revanche, si le marché ralentit, Toyota sera également touché. Après, c'est comment on va articuler ces marchés pour compenser ce qui peut se passer en Chine ou essayer de performer dans un marché qui ralentit un petit peu.
Alors, c'est un peu l'école des fans aujourd'hui, hein, quand on lit les différentes déclarations. Tout le monde a gagné. Volkswagen, évidemment. Toyota, qui est finalement pas si déçu que ça. Et puis Ford qui enregistre une hausse de son bénéfice net au deuxième trimestre, 1,9 milliard d'euros. Le groupe qui confirme également ses prévisions pour l'ensemble de l'année et le groupe qui annonce donc, en l'occurrence, qu'il s'agit de ses meilleurs résultats trimestriels depuis 15 ans. Qu'est-ce qui se passe également du côté de chez Ford ?
Chez Ford, c'est une histoire de conjoncture, un marché américain qui se porte plutôt très bien. Donc là où la marque, c'est la première marque Ford aux États-Unis. C'est pas le premier constructeur, mais c'est la première marque. Également en Europe, il y a eu des lancements récents comme la Ford Mondeo. Il y a des restylages qui ont eu lieu récemment. Il y a des lancements de véhicules aussi dans l'hémisphère sud. Donc il y a eu une marque qui bénéficie d'une bonne dynamique de marché où pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc Amérique du Nord, Europe. Et puis également un constructeur qui a fait beaucoup de lancements l'année dernière et qui bénéficie de ces lancements cette année. Quand on fait des lancements, ça a un coût. Et ce coût, forcément, va baisser un petit peu les résultats. Donc quand on bénéficie, quand on est dans l'accélération des ventes suite à ces lancements, on est forcément dans une phase où les finances se portent très très bien.
On perd en N-1, mais on gagne en N tout court.
En gros, c'est un petit peu l'idée.
Alors, voilà. Ça se passe bien, en tout cas.
Oui.
C'est le cas pour le moment pour Ford. Là
et
aussi.
Et puis, il y a aussi une chose, juste une petite parenthèse sur Ford. Ford a peu de modèles. Donc, quand un modèle est performant et qu'il est performant dans le monde entier, ça se passe plutôt bien pour le constructeur.
Et visiblement, les clignotants sont au vert, hein, puisque les responsables de Ford disent prévoir une deuxième partie d'année encore meilleure. Donc voilà, là visiblement du côté de Ford.
On est en pleine croissance des modèles, donc ça va plutôt bien.
GM qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait mettre sur la table 5 milliards d'euros pour développer et produire une nouvelle gamme de véhicules sous la marque Chevrolet. Véhicules destinés au marché émergent, alors on parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Mexique. Pourquoi la développer, cette voiture? Est-ce qu'on peut déjà l'appeler une voiture low cost? Je sais pas, mais... Pourquoi développer une voiture low cost sous une marque Chevrolet? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, mine de rien, de dévaluer un peu la marque Chevrolet?
Je ne pense pas. Je pense que stratégiquement, c'est même plutôt intéressant. Si on regarde la démarche de Renault, aujourd'hui, Renault a une marque qui s'appelle Dacia, qui vend en Europe donc des Dacia. Et puis ces Dacia, dès qu'on traverse les frontières de l'Europe, s'appelle Renault. En Amérique latine, aujourd'hui, la Logan s'appelle Renault, enfin la Sandero s'appelle Renault, le Duster s'appelle Renault. Il y a eu une époque où la Logan s'appelait Nissan au Mexique, mais on le voit en fait, ce sont des modèles d'appel pour pouvoir performer sur des marchés où on n'est pas encore face à des populations qui peuvent acheter des modèles en masse, qui soient des modèles très bien équipés, très haut de gamme, voire des modèles assez luxueux et confortables qu'on peut les avoir en Europe.
En gros, ils s'offrent une part de rêve en achetant une Renault qui n'est pas vraiment une Renault.
Si, c'est une Renault qui est adaptée aux besoins de ces pays. En fait, chaque pays s'adapte, chaque marché, chaque constructeur doit s'adapter. Chaque constructeur doit s'adapter au marché où il va. Donc, avoir une Chevrolet qui correspond au marché dans les pays émergents, ça a énormément de sens. Aujourd'hui, pour General Motors, la difficulté, c'est que ces gammes dans les marchés émergents comme le Brésil sont des gammes constituées un petit peu d'Opel, un petit peu de Chevrolet, un petit peu de Daewoo, et il y a énormément de modèles. Quand il y a trop de modèles, en fait, non seulement le client est perdu, mais en plus ça induit des coûts qui sont très importants parce qu'il faut faire vivre ces modèles, il faut les restyler, on a des usines qui sont pas forcément toujours les mêmes. Or, on pourrait mutualiser ces coûts si on avait une gamme extrêmement réduite, comme par exemple la gamme Dacia, qui n'a que, on va dire, trois modèles qui s'exportent vraiment dans le monde, qui sont le Duster, la Logan et la Sandero. Donc, en développant une gamme comme cela, avec en plus son partenaire chinois SAIC, ça permettrait à GM d'avoir une gamme très performante et de mutualiser, de faire une économie d'échelle, en fait, autour d'une gamme de modèles réduites et reposant sur les mêmes bases techniques.
Chevrolet a une vraie image de marque dans ce genre de pays ?
Chevrolet a une bonne image de marque, Chevrolet est très présent et est présent de façon historique dans ces pays. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau, ça veut dire qu'il y a une image, et ça veut dire qu'il y a des clients. Donc il est très important de pouvoir poursuivre en fait dans cette veine-là.
Alors, je vous le disais, il y a justement, puisqu'on parle de voitures américaines, il y a également Chrysler dans l'actualité. Alors ça, pour le coup, c'est pas aujourd'hui, hein, mais ça s'est passé le week-end dernier. En parlant de voitures connectées, alors on est loin des voitures low cost comme on peut le voir dans certains pays émergents, mais Chrysler qui a donc été piraté. Alors encore une fois, il faut remettre tout ça dans un contexte. Ce sont des journalistes qui étaient au volant et des hackers professionnels qui ne se cachaient pas, hein, visiblement.
Non. C'est une recherche qui a eu lieu. C'est une recherche qui a eu en fait depuis près de 5 ans sur les véhicules connectés et les véhicules, enfin toutes les commandes électriques des véhicules.
Donc, alors ils ont réussi clairement à prendre à distance le contrôle du véhicule, à mettre en marche l'autoradio, les essuie-glaces et surtout à faire s'arrêter la voiture qui roulait à pleine vitesse sur une autoroute. Est-ce que là, mine de rien, on ne met pas le doigt sur un réel problème, un réel souci ? C'est-à-dire que ce sont quand même deux métiers totalement différents, de construire une voiture, de produire une voiture et de produire un environnement connecté et surtout de les sécuriser.
Ce sont deux métiers différents, mais c'est aussi, en fait, on voit les limites de la réflexion des constructeurs. Les constructeurs n'ont pas voulu ouvrir les systèmes informatisés des véhicules en se cachant derrière la raison de la sécurité du véhicule, la sûreté, ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire, en fait, s'assurer que le véhicule va fonctionner, qu'on va pas pouvoir pénétrer dans le véhicule
électroniquement. Ils n'ont pas voulu l'ouvrir, c'est-à-dire, ils n'ont pas voulu le rendre public, ils n'ont pas voulu...
Ils ont voulu le développer eux-mêmes. Ou alors avec des partenaires qui appartenaient à l'automobile, donc quelque chose qui n'était pas forcément ouvert à des gens au départ comme Google, qui Google en fait avec ses voitures autonomes veut juste prouver qu'ils peuvent gérer la totalité d'une voiture. Ils ne veulent pas devenir constructeurs, ils veulent rentrer chez les constructeurs en tant qu'équipementier sur la partie logicielle. Et ça prend tout son sens puisque là on voit que la limite des constructeurs, c'est qu'ils n'ont pas su complètement sécuriser leurs véhicules et on peut pénétrer dans certains véhicules. Les hackers ont montré l'exemple sur une Jeep, mais ils ont regardé 14 véhicules et sur les 14 véhicules, il y a d'autres marques qui ont été citées. C'est la première fois qu'on cite ouvertement des marques, puisque jusque-là, à chaque fois qu'il y avait eu ce type d'essai, les modèles et les marques étaient camouflés. On disait, vous voyez, on a pu prendre le contrôle, mais on l'explique.
Enfin, qu'est-ce que ça veut dire alors de citer ouvertement ?
Là, je pense que les deux hackers ont voulu faire prendre conscience aux constructeurs que cette fois, on n'était plus dans le simple test informatique. On est à grandeur réelle sur des voitures qui roulent et il est temps de prendre conscience du problème et de le corriger. Parce que quand on n'est pas cité, quand on cache encore un peu les modèles, les constructeurs se reposent un petit peu sur leur laurier. Ce sont de grandes entreprises qui mettent du temps parfois à réagir. Donc là, cette fois, ils ont voulu montrer que c'est bien réel, ça marche. Et malheureusement, ça marche. Et qu'on peut hacker des véhicules qui sont en train de rouler.
Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire de la part du constructeur ?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est il faut déjà écoper, c'est-à-dire que tous les systèmes déjà existants, il faut pouvoir les sécuriser.
Bon, il y a eu un rappel en l'occurrence.
Il y a eu un rappel de la part de Chrysler. Il y aura d'autres constructeurs certainement qui vont faire des rappels, certainement silencieusement pour agir très vite et sécuriser leur système. Parce que en fait, le plus gros problème, c'est qu'on peut communiquer. À partir du moment où on rentre dans la voiture, on peut communiquer avec l'ensemble des systèmes. Il n'y a pas de séparation entre les différents circuits. Donc, il va falloir sécuriser tout ça et puis certainement travailler avec des gens. C'est le métier d'être aujourd'hui, enfin demain, fournisseur de l'automobile sur les parties logicielles.
Il y a déjà aujourd'hui, mine de rien, des partenariats avec Apple et avec Google.
Oui, il y a des partenariats, mais il va falloir que ça aille beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs en cours avec Google, puisque Google a prouvé, donc comme je disais, avec les véhicules, leurs véhicules autonomes, qui sont capables de gérer l'intégralité d'un véhicule. Donc là, il va falloir aller plus loin avec des sociétés spécialisées sur la sécurité informatique et sur la création de logiciels pour pouvoir en fait avoir des véhicules qui soient hautement sécurisés. Et malheureusement, ce n'est plus le métier des constructeurs. Il faut qu'ils le comprennent et il faut qu'ils passent la main.
Et vous ne pensez pas, mine de rien, que ça peut en tout cas donner une mauvaise image ou faire prendre conscience au public que ces voitures, aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes ?
C'est aller trop loin, je pense, de dire qu'elles ne sont pas prêtes. Il faut simplement aller pas à pas. Le marché a extrêmement... la demande, en fait, est très forte pour ce type de fonctions connectées. Donc, il va falloir répondre malgré tout à la demande, parce que la clientèle est là, la clientèle le demande. Et puis, en même temps, il va falloir sécuriser, donc savoir lâcher quand on le peut un système quand on sait qu'il est pleinement sécurisé. Le seul problème, c'est qu'on sait qu'un système informatique, on peut le sécuriser comme on veut, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à craquer quelque chose.
Et à cœur, toujours Une vitesse et un train d'avance, en l'occurrence, sur les programmateurs informatiques, évidemment. Citroën qui relance la Méhari. Alors, on a vu ça également aujourd'hui. C'est quoi? C'est une annonce? C'est une annonce marketing?
Ça fait des années qu'on parle de relancer la Méhari, une voiture simple, une voiture en plastique, une voiture qui rouille pas. Ça arrive on parlait beaucoup ces derniers temps de éventuellement la Blue Summer de Bolloré qui allait être produite à Rennes. Là aujourd'hui l'annonce est faite par rapport au C4 Cactus. C'est intéressant de voir en fait que c'est un modèle qui va être dérivé donc d'un modèle existant. Mm-hmm. Donc qui sera pas forcément complètement une Méhari, mais en même temps il faut la remettre dans le contexte. La Méhari à l'époque on pouvait la faire, aujourd'hui la même Méhari on ne pourrait pas la remettre sur la route, on ne pourrait pas l'homologuer. Donc les contraintes sont pas les mêmes. Après on peut retrouver l'esprit d'un véhicule à travers une itération du C4 Cactus. Ce qui est intéressant de noter, c'est de voir que on prend un véhicule dont aujourd'hui, alors le succès la première année du C4 Cactus était plutôt pas mauvais, mais c'est un véhicule qui s'essouffle un petit peu, même s'il reste quand même bon en vente en France.
Ça peut lui redonner un deuxième souffle.
Voilà, il va falloir que l'usine soit un peu plus rentabilisée à Madrid, et donc mettre un autre véhicule sur la même plateforme à Madrid, ça a du sens également.
Bon, et puis pour en terminer notre catalogue, parce que c'était un peu ça hein, ce soir, le catalogue des infos autour du secteur de l'automobile. Alors pour le coup, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais tout de même, il faut qu'on en dise un mot. L'Iran qui pourrait, en cas de lever des sanctions, à s'ouvrir. Les constructeurs français ont évidemment une place à jouer, certains. Il joue d'ailleurs un rôle aujourd'hui.
Alors, on met beaucoup de conditionnels. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà redémarré. Il y a déjà beaucoup de choses beaucoup de travail qui a été réalisé en amont. Et puis, quand on regarde certains constructeurs comme Peugeot, qui était très présent en Iran, puisque c'était un marché d'1,6 million de véhicules avant les crises, et Peugeot avait plus de 400 000 véhicules sur place. Donc, c'était un constructeur qui pesait lourd sur le marché et qui a continué malgré les sanctions. Alors, ça n'est pas Peugeot qui a continué, c'est la marque qui a continué au niveau local à travers les partenaires de Peugeot sur place. Donc, qui ont sourcé ailleurs les pièces pour pouvoir continuer à produire des véhicules. Mais Peugeot a toujours gardé, en fait, une production locale, la marque Peugeot, pas le constructeur PSA. Et aujourd'hui, donc, ça donne une longueur d'avance à PSA pour pouvoir repartir. En revanche, il faut quand même travailler avec les partenaires locaux, puisque aujourd'hui, ils peuvent produire sans l'aide de PSA. Il va falloir que PSA, et c'est le cas aujourd'hui, ils ont déjà travaillé avec Iran Kodro, et les choses avancent assez vite, visiblement, puisque il y a déjà des véhicules qui sont dans les tuyaux pour pouvoir repartir.
Les autres constructeurs vont pouvoir regagner un peu le terrain perdu?
Oui, alors Citroën aussi regarde l'Iran. Renault était présent également avec Mala Logan. Volkswagen également parle de revenir. Et les constructeurs américains, nécessairement, ont été prévenus, certainement très en amont par la CIA, de la future levée des sanctions. Et ont très tôt envoyé des personnes pour sonder le marché, donc certainement pour se relancer sur place.
Merci beaucoup, Bertrand Racoteau, pour ce grand tour donc autour de l'actualité du secteur de l'automobile. Je rappelle que vous êtes consultant automobile chez Détroit Intelligence. Vous restez avec nous sur BFM Business, à suivre dans un instant votre rendez-vous de l'été, la librairie de l'écho avec Emmanuel Lechypre. Quant à moi, j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver demain dès midi et demi. Passez une excellente soirée sur BFM Business, bien évidemment.